Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Église, ce matin, j'aimerais être avec vous et prendre un petit peu de temps, s'il te plaît, il me faut 20 minutes. Merci. Et vraiment vous encourager à plonger vos regards avec moi dans la parole de Dieu et prendre quelques notes. Nombreux sont ceux qui, depuis quelques semaines, m'ont dit « Bruno, ok, je comprends, tu aimes Dieu, tu es chrétien, c'est bien, mais pourquoi extravagance ?» Les gens trouvent ça bizarre, pas tout le monde, mais certains trouvent ça bizarre, extravagance. Et on se demande pourquoi le mot extravagance, ça fait bizarre. Une Mauricienne m'a écrit, elle m'a dit « En tout cas, Maurice, extravagance, c'est pas bon, hein. C'est extravagué, hein. » Ou extravagué. Donc je me suis dit « Attends, je vais quand même parler un petit peu du mot extravagance parce que je crois que on a besoin de comprendre que si j'ai fait un choix avec le comité spirituel et mon pasteur Marc, si on a fait un choix du nom d'église, c'est pas parce qu'on est à côté de la plaque, c'est parce qu'on a un contexte biblique. On a un contexte biblique. Alors avant de prendre la parole ce matin, une simple définition. Le mot extravagance dans son essence, plus forcément sur mon retour, le mot extravagance dans son essence, la signification la plus simple, écoutez ça, c'est très facile. C'est le mot extravagant ou extravagant signifie qui s'écarte du sens commun. Qui s'écarte du sens commun. Il est clair que je ne suis pas un pasteur commun. Ma fille m'a demandé, est-ce que papa, tu as acheté ton jean comme ça? J'ai dit, oui, moi j'ai acheté mon jean comme ça. Elle m'a dit, tu t'es fait arnaquer. Et il y a des gens, c'est vrai, qui ne peuvent pas rester ici, ils n'aiment pas parce qu'on est peut-être un peu trop hors du commun. C'est pas qu'on est meilleur, on est juste différent. Mais Dieu aime la diversité. Regardez-nous, regardez-vous, nous sommes tous différents. Et Dieu est par définition extravagant. Il est hors du commun. Il s'écarte du commun. Et le problème de la religion, c'est que la religion veut mettre Dieu dans notre boîte. Ça nous rassure de penser que Dieu est d'accord avec ce que nous pensons, mais c'est faux. Dieu est plus grand, écoutez ça, Dieu est plus grand que l'expérience que j'ai de lui. Heureusement d'ailleurs. Donc comme dans tous les mots par contre, il faut que je vous rassure un instant, tous les mots ont des sens différents selon leur contexte. Mon beau-père qui vient de Marseille, que Dieu bénisse son cœur. Il vient de Marseille et il a un vocabulaire parfois. Pour lui, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un gros mot. Je ne vais pas le dire aujourd'hui parce que bon. Mais il dit des mots qui pour lui, ce n'est pas un gros mot. C'est marseillais, tu vois, voilà, c'est marseillais. Mais pour nous, ce ne serait pas un mot joli, c'est un vilain mot. Si vous marchez avec Luc Dumont, il m'arrive souvent, on s'écrit quasiment tous les jours, on se parle beaucoup, et si tu dis le mot tabernacle à un Canadien, je suis désolé pour ceux qui m'écoutent du Canada, je suis vraiment désolé. Mais si vous dites le mot tabernacle, pour eux c'est un énorme juron. C'est parmi les plus gros jurons pour nous. Quand tu dis tabernacle ici, tout le monde dit « Oh, gloire à Dieu !» Et je dis « Mais comment tu fais quand tu chantes le chant « Jésus remplit le tabernacle » ?» Ils disent « Jésus remplit le temple, ou le sanctuaire, ou mais pas le tabernacle. » Je fais « Ah bon ?» Un mot un peu plus, je veux dire, mondain, pas forcément vulgaire, mais mondain. Nous, les Français, on dit j'ai deux enfants, j'ai deux gosses. Oui ou non? Mais les Canadiens, les gosses, c'est pas ça. Les gosses, c'est les parties des hommes. Alors, un pasteur, un jour, était au Canada, il a dit voilà, j'ai trois gosses et ils sont restés à Paris. Et là, je veux dire, pour certains, c'est pas grave. Pour les Canadiens, ils font oh non, qu'est-ce qu'il dit là, tu vois? Et. Donc je tiens à vous dire, les mots que nous utilisons n'ont pas toujours les mêmes sens. C'est pour cela qu'il est important de toujours définir le contexte. Définissez le contexte dans lequel vous évoluez. Il est normal que les gens qui ne nous connaissent pas, malheureusement, s'ils sont immatures, vont juger. Ils vont en général on juge sur deux choses, notre ignorance et un manque d'amour. Ignorer le contexte te pousse à juger. Tu critiques ce que tu ne connais pas. En France, on est comme ça. On aime bien critiquer ce qu'on ne connaît pas. Mais quand vous allez ce matin quitter ce lieu, vous allez dire « Ok, j'ai compris. Je sais où on va. Je sais ce que l'on veut faire. » La raison pour laquelle nous changeons Hosanna vers extravagance, c'est parce que Hosanna a été repris par plusieurs groupes chrétiens. Gloire à Dieu, je suis content pour ça. De différents mouvements. Et Hosanna, à La Réunion en tout cas, est nettement attaché à une culture religieuse. Quand vous dites je vais à l'église Hosanna, la plupart des non-chrétiens que je parle vont dire Hosanna, je vais pas. Parce que dans leur tête, Hosanna, ça fait religion chrétien. Mais tous mes copains qui sont non-chrétiens, qui m'ont dit c'est quoi extravagance ? C'est des gens qui se rencontrent pour faire des choses différentes. Il faut que je vienne, c'est quoi le truc ? Ben on vient, puis on fait un truc différent. Viens voir si tu veux. Ok, je vais faire t'en voir. Mais si tu fais Hosanna, c'est un lieu qu'on se rencontre, faire des choses différentes. Ils vont se dire différentes, religieuses. Trop tard, tu perds les gars. Et nous, on n'est pas intéressés à récolter des poissons d'un aquarium pour le mettre dans une baignoire. Vous comprenez l'image ? On n'est pas là pour récolter d'autres membres de notre église. Si vous venez de notre église, gloire à Dieu, on vous accueille, on vous aime. Envoyez un email à votre pasteur pour dire que vous venez ici. C'est gloire à Dieu, on va voir. Je parle avec votre pasteur, c'est pas un problème, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que nous cherchons avant tout à gagner des âmes. Notre mission n'est pas de briller dans l'église, notre mission est de briller dans le monde. L'église n'existe pas pour l'église, elle existe pour le monde. Jésus t'a guéri, sauvé, transformé, libéré, purifié, tout ce que tu veux. Pourquoi ? Pour les autres. L'onction que tu as du Saint-Esprit, c'est pour le monde. Les talents que tu as, c'est pour le monde. Ce que nous avons chez nous, en nous, c'est pour le monde. On n'est pas là pour se flatter les uns les autres tous les jours. On est là pour aller chercher les hommes et les femmes qui souffrent, qui sont blessés, qui sont brisés. Et pour cela, il faudra commencer à être extravagant. Et dans la culture extravagante, je veux vous faire comprendre qu'il faut avoir la culture de Dieu, la folie de Dieu. Paul dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour les sages de ce monde. Il est clair que moi, je veux être un fou pour Dieu. Alors, permettez-moi rapidement de vous faire, rapidement, juste quelques points. Vous lirez chez vous les versets, vous verrez chez vous la liste. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est extravagant ? Bah oui, vous, c'est sûr, vous êtes avec moi. Mais bon, d'autres, peut-être pas. Je m'adresse à tous ceux qui sont autour de nous, au Canada, en France, tous les auditeurs du site internet, ceux qui écoutent sur enseignement.com, et Top Chrétien bientôt va aussi mettre nos messages en ligne. Gloire à Dieu pour ça. Mais écoutez bien ça. On va expliquer aujourd'hui au reste du monde francophone pourquoi on s'appelle extravagance. Parce que j'ai reçu plus de 300 emails. Sérieusement. Pourquoi changer de nom ? Ça va pas, non ? Que vont dire les religieux, les églises ? Je dis, ben ça, ce que les religieux vont dire, c'est pas trop ma tasse de thé. Ce sont les religieux qui ont crucifié Jésus-Christ. Oui, nos péchés l'ont mené à la croix, mais ce sont eux qui ont mis le clou. Donc moi, je préfère chercher des hommes et des femmes qui ne sont pas du tout religieux. Vous savez, je vais dire une phrase rapidement. Je vais dire ça, c'est très risqué. Seigneur, aide-moi. Le prix de la liberté, c'est de garder une culture de l'erreur. Parce que si tu empêches les gens de faire des erreurs, tu leur prives de leur liberté. Quand tu veux entretenir la liberté chez quelqu'un, chez ton enfant par exemple, tu lui fais comprendre que l'erreur n'est pas grave, sauf s'il n'est pas d'accord avec la restauration de l'erreur. Faire des erreurs n'est pas grave, sauf si on refuse de payer les conséquences de nos actes. Comment je veux dire ? Donc nous, on veut une culture de l'erreur avec responsabilité. Je commets une erreur, je demande pardon, je répare l'erreur. Je blesse mon frère, je commets une erreur, je répare l'erreur. Je fais une erreur dans un champ, je fais une erreur dans ma vie, je commets l'erreur, je répare l'erreur. C'est la question de la liberté. La liberté te donne le droit de faire des erreurs, mais de réparer tes erreurs et d'apprendre de tes erreurs. Mais une religion t'empêche de faire des erreurs. Une religion, tu mets dans un même moule, tout le monde pense pareil, tout le monde croit pareil, tout le monde chante pareil, tout le monde prie pareil, tout le monde fait comme le pasteur. C'est une religion fermée, finie. Si tu fais une chose différente, tu es cuit. Malheureusement, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, parce que Dieu a fait toutes les espèces différentes. Le ciel bleu à La Réunion, croyez-le ou pas, est différent du ciel bleu en Afrique du Sud. Il n'y a pas un bleu pareil dans le ciel. Tous les jours qui se lèvent, j'ai la chance moi d'habiter dans une ville où je peux voir les montagnes de là où je suis. Quand c'est dégagé, des fois je m'arrête au stop, je me garde un instant et je regarde. Je dis pourquoi est-ce que je vais au bureau ? C'est magnifique. Donc, est-ce que vous croyez que Dieu est extravagant ? Rabien, écoutez ça, je vais paraphraser mais c'est puissant. Dieu dit à Abraham, Abraham, salut, bonjour, je m'appelle Dieu, tu ne me connais pas encore parce que je te rappelle que toi tu es né en Ur des Chaldées qui signifie danse avec les démons. Donc Abraham n'allait pas à l'église. Abraham n'a pas fait l'école biblique. Abraham n'était pas soumis à Steve. Abraham était Abraham, tout seul dans un coin. Et Dieu débarque et Dieu dit, c'est moi Dieu, je choisis à qui je veux parler. Je te dis, quitte là où tu es, quitte ton pays, va dans un lieu où je te montrerai plus tard. Hein ? Quitter, je veux bien, mais pour aller où ? Tu verras. Ah, au fait, prends toute ta famille, ton troupeau, tout ce que tu as avec toi, et bouge tout le monde avec lui. De la folie, ça? De la démence? Et pourtant, Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, 33. Après, Dieu dit à Moïse, Moïse, au fait, je viens te voir, parce que, faut que je te parle un petit peu, là, j'ai 2,7 millions de personnes qui sont en Égypte. Ils sont un petit peu trop en esclavage. Toi tout seul, avec ton bâton, tu vas les chercher, tu les enlèves et tu les fais traverser une lumière rouge. Très simplement, tu frappes du bâton, la mer rouge va s'ouvrir, tu vas passer. Et puis aussi, l'armée ennemie va être noyée dans la mer rouge. Hein, tranquille, ça te va? Oui, Seigneur, peux-tu répéter dans mon langage, s'il te plaît? Je viens de te répéter, prends ton bâton. Extravagant, vous avez dit? On limite Dieu. Viens voir le roi Josaphat, pleine guerre, une guerre immense, il y a l'armée ennemie. Le roi Josaphat pleure et dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir, on est mort. Dieu dit, ok, c'est bon, j'ai la solution. Tu vois le groupe de louanges, tu prends les musiciens, tu prends le groupe de louanges, les chanteurs, c'est eux qui vont chanter devant l'armée ennemie. Je vais combattre pour toi, je vais avoir la victoire, toi tu attends ma victoire et quand ils auront fait leur travail, tu pourras avancer. Oui, Josué, au fait, il faut que je te parle. À l'entrée de ta promise, il y a une muraille, il y a Jéricho, c'est barricadé d'ennemis, c'est très très dur, c'est costaud, c'est énorme. Alors, ce que vous que tu fasses, c'est très très simple. Non, pas de bazooka, pas de tank, pas de missile, rien. Juste, tu fais 6 fois le tour. Tu vas sacrifier un agneau sur la montagne. Tu vas célébrer la Pâque. Et le 7e jour, tu vas venir autour de la muraille. Et vous allez simplement crier. Seigneur, là, il y a un problème. C'est de la folie. On va s'afflinguer. Non, tu vas crier. Tu vas pousser des cris de joie, trompette, tout le monde et tout ça. Et les murailles vont s'évanouir toutes seules. Ce n'est pas un conte de fées, là, c'est la Bible, hein. Une jeune femme est toute seule chez elle. Elle prie, elle aime Jésus. Elle est vierge. Un ange arrive, lui dit chère Marie, tu as été choisie par Dieu le Tout-Puissant pour amener son fils sur la terre. Tu vas tomber enceinte sans connaître aucun homme. Est-ce que tu es d'accord? Hein? Mais attends, si je suis enceinte et que les gens voient que je suis enceinte, que je ne suis pas mariée, je serai la risée du village, la honte pour tout le monde, mon futur mari va me jeter. Écoute, tu vas faire ce que je te demande de faire, tu le fais, oui, qui en soit fait sans ta parole, point. Est-ce que c'est extravagant? Je parle aux jeunes femmes là ce matin, vous êtes encore, imaginons que vous êtes encore vierge par exemple, et un ange vient vous voir et vous dit vous serez enceinte, vous faites quoi? Vous paniquez ou vous dites alléluia, Dieu est bon? Vous faites quoi? Vous dites, j'ai dû rêver, j'ai un cauchemar, il y a un souci. Vous célébrez le roi. Salut Seigneur, je suis enceinte de toi. Parce qu'on rigole, mais moi quand j'ai la parole de Dieu, Dieu se sert de mon site pour me parler. Il me parle, il me dit, tu vois, je suis extravagant. Et je vais zoomer ce matin sur un miracle qui m'a beaucoup touché. D'accord? Dans Jean chapitre 2, tout le monde dit, Jésus a changé l'eau en vin. Et pensez aussi rapidement à Pierre. Pierre, ce gars-là est dangereux. Pierre, tout d'un coup, il y a une tempête, tout le monde panique. La tempête est calmée, il dit à Jésus, ok, je marche sur l'eau. Extravagant, les gars, je vous garantis que tout le jour de ma vie, à chaque fois que je me trouve au bord d'une piscine, j'essaie de marcher sur l'eau. Je vous promets, je dis, Seigneur, avant de mourir, je veux réussir à marcher sur l'eau. C'est pas encore réussi, à chaque fois je me suis mouillé. Mais j'aime bien Pierre. Pierre marche et son ombre guérit les malades. Est-ce que c'est extravagant ça? Ça sort du commun. C'est pas normal quand même. Et Paul dit, bon, j'ai pas le temps d'y aller. Écoutez, prenez mes mouchoirs et mes t-shirts, mes bouts de tissu. Je vous les distribue et vous mettez le tissu sur le gars, il sera guéri. Et les gens prennent le bout de tissu de Paul, ils prennent le bout de tissu de Paul sur le corps du gars, le gars est guéri. Pierre est en prison, avec Silas, et en pleine nuit, les gars décident d'avoir une célébration extravagante. Et ils louent, ils adorent Dieu, il est minuit, il fait noir, on n'est pas en prison aux USA, là, on est carrément Moyen-Âge, avant d'ailleurs. On est là, on prie, on pleure, on loue Dieu, tout d'un coup, des anges débarquent, secouent la prison, toutes les chaînes de tous les prisonniers tombent, le geôlier veut se tuer, enfin qu'on dit non, ne te tue pas, et se convertit, toute la famille est sauvée, parce que deux gars ont loué le roi des rois de façon extravagante dans un moment très difficile pour leur vie entre guillemets, et la prison a été secouée, tout le monde a été délivré. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu est extravagant? Tiens, moi j'aime bien quand Dieu fait boum. Je m'ennuie avec la religion. Ah, au fait, Dieu s'ennuie avec la religion. Si tu étais Dieu, est-ce que tu t'aurais choisi? Allez, sérieux. Si tu es... Colette, tu es extravagante. Colette, tu serais choisie, elle est trop fort. T'es la seule, je pense, dans toute la salle. Mais c'est bien, j'admire ta foi, mais moi non. Si moi j'étais Dieu, je ne m'aurais pas choisi. Sachant comment je suis, j'aurais dit non, c'est de la folie furieuse. Choisir un jeune gars à La Réunion qui parle vite, moitié créole, moitié russe, et moitié allemand et moitié français. Pas vrai, hein, je parle russe. Hein. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je vois choisir Steve comme prédicateur, mais jamais. À l'époque, Steve, je dis non. Peut-être Bruce Lee, ouais, mais pas Steve. Et pourtant. Alors lisez avec moi sur vos écrans dans Genèse. Jean, je veux dire. Jean, chapitre 2, au verset 11. C'est là, à Cana, le premier des miracles. Tout le monde dit le premier. Au fait, ça veut donc dire que tous ceux et celles qui racontent que Jésus a fait des miracles lorsqu'il était enfant, c'est du mensonge. La Bible dit ici, le premier des miracles. Donc tous les gars qui racontent n'importe quoi sur l'enfance de Jésus, il a fait des miracles, il volait dans les airs, c'est oublié, hein, c'est faux. Jésus était un homme, comme vous et comme moi, 100% Dieu, 100% homme, et à un moment précis, il a décidé d'activer l'onction, premier miracle, ce moment-là. Alors c'est quand même marquant de savoir que c'est le tout premier miracle de Jésus-Christ. Le tout premier miracle. Hein, où il manifesta sa quoi? Sa quoi? Le mot gloire, c'est le mot grec doxa, qui signifie réputation, caractère, qualité intrinsèque de l'individu, ce qui parle de ce que l'individu est. Quand on dit gloire de Jésus, c'est ce qu'il est exactement. Et la Bible dit ici, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le mot grec pour premier, c'est arché en grec. Ça signifie il n'y avait rien avant, c'est le commencement de toute chose. Donc c'est le tout premier miracle, aucun doute là-dessus. Quand vous lirez le mot miracle, en fait c'est le mot signe. Et c'est, vous trouvez le même mot grec, Siméon en grec, dans Actes 2, 22 je crois, qui parle du mot signe, c'est les signes qui accompagnèrent les disciples. Donc dans Jean 2, verset 1 maintenant, gardez ça en tête, hein, on parle du premier miracle. Verset 1, trois jours après, il y a à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, d'accord non? La mère de Jésus est là et c'est quand même sa mère quoi. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. J'aime ça. Je me demande combien de chrétiens, combien d'entre nous, nous sommes invités aux fêtes du monde. Combien d'entre vous, vous avez des amis du monde, mais vraiment des amis bien mondains, hein, des gars qui sont des pêcheurs professionnels, quoi. Et vous allez chez eux souvent et vous n'êtes pas en train de les juger. Et ça boit, et ça fume, et ça y va, et c'est incohérent. Et tu es là, tu fais, fou, bah dis donc, là, ça, fou, ça y va. Parce que Jésus était là-bas, lui. Hein. Nous, on veut que Jésus n'a jamais dit, priez pour que j'envoie les gars dans l'église. Il n'a jamais dit ça. Hein. Il a dit, vous allez. Donc, on est pris ce matin. Le vin, verset qui suit. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Réponse de Jésus, verset 4. Jésus lui répondit, femme. Sympa, Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Attends, il faut quand même comprendre que c'est sa maman. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce que tu me veux là? Attends, mon heure n'est pas encore venue. La version grecque signifie mère. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? En grec, il dit, c'est ton inquiétude et pas la mienne. C'est ce que le grec dit. Une autre version dit, n'essaie pas de me dicter la conduite. Ce n'est pas le temps pour moi d'agir. Et là, on voit Marie qui essaye de faire jouer sa relation et sa position pour que Christ agisse. Et on voit que Christ lui dise, mais non, qui que tu sois, je te dirai non. Elle évoque le besoin du vin. Il a ignoré, écoutez ça. Alors, elle lui parle de sa relation avec lui. Il dit, écoute, c'est ta mère, je te demande une faveur. Il dit non. Après, elle dit, mais il n'y a pas de vin. Il dit, alors, pas de vin, mon heure n'est pas encore venue. Écoutez ça. Donc, Jésus ignore le besoin. Oui, non, il dit, si, mon heure n'est pas encore venue. Jésus ignore le besoin. Écoutez bien ça. Hein. Il ignore le besoin. Tout le monde dit le besoin. Dieu est extravagant. Il ignore le besoin. Et il ignore même le statut social, spirituel. C'est pas parce que je suis pasteur que j'aurai plus de miracles que vous. Oubliez ça. Rien à voir avec ça. Parce que quelqu'un est prophète qui aura le droit à plus de miracles. C'est faux. L'idée la suivante, écoutez ça. Je vais être bref, mais c'est important. Le timing, merci. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, c'est cette phrase-là qui attire le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi. Jésus n'est pas interpellé par le besoin. Il aime les gens qui ont le besoin, c'est sûr, mais ce n'est pas le besoin qu'il fait réagir. Pourquoi? Écoutez ça, si tous les besoins du monde faisaient agir et réagir Jésus, il n'y aurait plus aucun besoin sur terre. Malheureusement, nous savons qu'il y a des gens dans ce lieu ce matin, on a des besoins, et parfois les besoins ou les requêtes de prière ne sont pas comblés parce que Jésus n'est pas motivé par ton besoin. Certains disent, mais si je vais voir le pasteur, comme je suis pasteur, comme je suis prophète, j'ai 15 ans de conversion, je mérite bien qu'il fasse un miracle, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je prie, hallelujah, comme je fais toutes ces choses-là bien, je suis comme la mère de Jésus, j'ai un statut, j'ai un titre, j'ai une relation avec Jésus, donc je mérite les miracles. Jésus, non. Ce qui va activer le miraculeux dans la vie, dans ce moment précis, c'est la foi. La mère de Jésus dit, faites tout ce qu'il vous dira, surtout quand il va parler, vous écoutez. Elle avait la foi prophétique de savoir que Jésus allait quand même agir. Et ça, c'est important, c'est la foi qui active le miraculeux. C'est la foi qui donne l'énergie nécessaire pour que le miracle arrive. Et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que Jésus-Christ est tellement extravagant que pour le premier miracle qu'il a fait sur la terre, il a, écoutez ça, hein, personne n'a été sauvé. À part ses disciples qui croient en lui. Il n'y a pas eu d'appel au salut, il n'y a pas eu de guérison, personne dans ce passage-là n'a été guéri, sauf que Jésus a manifesté sa gloire en changeant l'eau en vin. Pourquoi ? Verset 6, la parole de Dieu dit qu'il y avait 6 jarres, 6 vases de pierre et que les juifs, ça c'est bon, les juifs utilisaient pour la purification de leur rituel, de tout ce qu'ils faisaient, d'accord ? Et deux, trois mesures, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque jarre pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Les gars, essayez de porter 80 litres d'un coup. 80 litres à porter, ou en tout cas ramener de l'eau pour remplir les 6 jarres de 80 litres avec de l'eau. J'imagine la tête des gars qui ont dû dire, attends, il faut qu'on prenne de l'eau pour aller remplir les vases des sacrificateurs de la religion des prêtres, et pour leur dire après qu'il n'y a pas de vin. Il n'y a rien qui se passe normalement, c'est extravagant. Je vous dis ce matin, venez emmener un vase, remplissez d'eau et le vase dans un instant rempli de vin. Vous le faites ? Imaginez maintenant devant votre famille non chrétienne lors de leur mariage non chrétien. Le cousin dit, j'ai plus de vin, là je suis cuit. Ou pire, j'ai plus de whisky. J'ai plus de... Toi t'arrives, Seigneur, amène le whisky. Ça nous choque parce qu'on est religieux. C'est ce que Jésus-Christ fait ici. Et non seulement il donne l'eau, il transforme l'eau en vin, mais le pire, c'est que les gars sont déjà assez éméchés. Non pas que Jésus est pour l'ivrognerie, il est contre. En fait, si vous voulez un truc très, très simple, Jésus est contre tout ce qui détruit les relations entre vous et moi et les relations avec lui. Ça vous va ? Vous savez, il y a un moment où on me disait, ouais, mais toi, dans ton église, il y a des gens qui fument. Alors je dis déjà, c'est pas mon église. C'est celle de Christ, il faut arrêter de mélanger toutes les choses. Oui, mais je vais vous dire, c'est que tu es pasteur. Je fais, ok. Il me dit, des gens qui fument. Je fais, ah ouais. C'est quoi ton problème? Bah, ils fument, hein, ils vont en enfer. Hein. Je fais, ah, ouh. Je dis, ok. Toi, tu es d'accord pour qu'on vire les gens qui fument. Mais tu vas garder dans votre église les gens qui sont dans l'adultère mais qui ne disent rien à personne. Les gens qui sont en pornographie mais qui ne disent rien à personne. Les gens qui sont dans le non-pardon mais qui ne disent rien à personne. Les gens qui mentent, qui critiquent, qui jugent, qui disent rien à personne. Les gens qui manipulent, qui disent rien à personne. Alors ça, il n'y a pas de problème. Tant que c'est caché, il n'y a pas de souci, on est dans l'église, on enlève les mains vers le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais le gars qui malheureusement fume 2-3 cigarettes, je ne dis pas que c'est bien, parce qu'il bouffe sa santé. Mon point, c'est que Jésus, lui, il arrive là, premier miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, je vais changer l'eau en vin. Les gars, ces gars sont déjà totalement éméchés. La fête, ça fait des semaines que ça se passe. Les gars, c'était pas à l'époque, bonjour, nous allons boire un petit verre de vin, hop, un petit pétrus. Vous oubliez ça, là, hein? C'était parti dans le flot. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais changer l'eau en vin et je vais donner le meilleur vin. Et veut nous dire ce matin que nous ne devrions pas juger les gens, les circonstances et les choses. Si nous voulons le miraculeux dans notre vie, si nous voulons une vie extravagante, nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu aurait pu commencer son premier miracle en guérissant quelqu'un qui était paralysé, par exemple. Il aurait pu guérir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui avait un cancer, je ne sais pas, n'importe quoi. Il a commencé à changer l'eau en vin. Et donc au verset 8, il leur dit « Maintenant, leur dit-il, prenez un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » C'est ce qu'ils firent. Donc les gars remplissent, c'est 120 litres par vase, d'accord ? Donc c'est un paquet de litres. Et j'ai compris une chose encore une fois ce matin, c'est que la foi n'agit que dans le présent. Comme dit en anglais, get with the program, rentre dans le programme de Dieu. La foi, c'est pour le présent. On n'est plus là en train de se dire qui a fait quoi avant le passé. On est là pour célébrer le roi des rois, avoir une vie extravagante, aimer les gens jusqu'à ce qu'ils demandent pourquoi. Voilà la vie de Dieu a pour nous. On n'est pas là pour aller juger les gens dans les fêtes. On est là pour améliorer la fête. Alors je sais, on va me dire, oh Bruno, il pêche pour le péché. Mais non! Un jour on m'a dit, Bruno, tu es un pasteur bizarre, tu es trop... On dit quoi? On m'a dit, tu es trop... Quand on te montre, tu te montres tout le temps là. Exhibitionniste. Je dis, ah ouais. Eh ben Pierre, Paul, Jacques, David, Moïse, Jésus, tout le monde était exhibitionniste parce qu'ils parlent dans la Bible. Et Jésus s'est assuré qu'on parle d'eux pour l'éternité. J'ai dit aux gars, c'est n'importe quoi parce que la Bible dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Et tu me demandes la lumière du monde cachée dans un placard, ça va pas ou quoi? Je veux ce matin casser l'esprit de religion en nous, frères et sœurs. Je vous encourage à vous dire, hey, y a, en toi, il y a un trésor que Dieu a placé, qu'aucun homme ne peut enlever. Je veux te dire ce matin que tu as une onction qui vient directement du trône de Dieu, pas du pasteur Bruno, qui vient du trône de Dieu. Cette onction-là te rend plus que vainqueur. Son nom est le Saint-Esprit. Et il veut que tu ailles dans le monde entier changer l'eau en vin. C'est-à-dire tout simplement dire, hey, tu sais quoi, tu as un problème, Jésus est la solution. Aïe, aïe, aïe. La foi, c'est obéir à Dieu dès l'instant où il parle. Et j'ai appris une chose avec Dieu, j'ai appris une chose. Et croyez-moi, Église, dès le moment où tu as parlé, ta petite vie confortable de fonctionnaire spirituel est terminée. Et rien contre les fonctionnaires, d'accord? Je les respecte, je les aime, gloire à Dieu, on a besoin d'eux. Mais c'est un cliché. Fini, dès que Dieu te dit, bam, Bruno, bonjour, tu vas planter des églises. Ouais, je vais voir. Non, tu agis. Dans Ésaïe 1, 19, la parole de Dieu dit, si vous vous décidez à m'obéir, si vous obéissez à ma voix, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes soumis, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vais le redire parce que c'est pas rentré. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Pas normal que l'église soit toujours en train de se dire ouais, l'église est appelée à être la tête et non pas la queue. Ça ne signifie pas qu'on est appelé à être les chefs des chefs, ça signifie qu'on est appelé à influencer. Quand tu es à la queue d'un mouvement, tu suis tout le monde. C'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'es pas là pour suivre le mouvement de Babylone. Tu n'es pas là pour te soumettre au mouvement de Babylone. On se soumet aux lois. Mais dans l'esprit, je veux moi montrer ce qu'est le chemin de Christ dans ma vie. Alors ça va paraître extravagant. Quand tout le monde dit que c'est la fin du monde. Quand tout le monde dit qu'il n'y a plus de finances dans les caisses de l'État. C'est trop dur, c'est fini. Moi je dis non, c'est que le commencement. Moi je dis Dieu est un but pour moi. Dieu me oint. Dieu m'a gâté avec sa présence et son amour, mon ami. Il n'y a plus de vin ? Il y en a encore ! Non, il n'y en a plus ! S'il y en a encore ! Non, il n'y en a plus ! S'il y en a encore ! Pourquoi ? Le Christ est là ! Ah ! L'Église ! Christ est là ! Christ est dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église, à la Réunion ! Il n'y a plus de vin, hein ? Tu es aveugle ou quoi ? Et Marie avait su, elle a dit, je sais qu'il y a encore du vin. Il y a encore du vin parce que mon fils... Et là, tant qu'il y aura le Seigneur Jésus-Christ, il y aura du vin. Ça veut dire qu'il y aura de l'espoir, de l'espérance. Le vin symbolise le Saint-Esprit. Le vin nouveau symbolise la présence du Saint-Esprit qui coule comme des fleuves d'eau vive dans ton âme. Tant qu'il y aura Jésus, il y a de l'espoir, la joie, la force, la paix, la passion, la puissance, la gloire, ce que tu veux. Moi, je suis heureux. Et je suis heureux d'être heureux. Pour moi, être un chrétien malheureux, c'est pas normal. C'est un oxymore. C'est de l'oxygène qui est mort. Un oxymore, c'est, si vous voulez, c'est antithétique. On peut pas avoir chrétien malheureux. C'est pas normal parce que si tu es chrétien, tu es rempli de la force de Christ. Oui, il y a des problèmes, c'est sûr. Mais il y a la joie. Verset 8. Maintenant, Jean 2, 8. Maintenant, leur dit-il... Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Ils l'emportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après qu'on s'est enivré. Toi, tu gardes le bon vin jusqu'à présent. Ce qui m'a choqué dans ce passage-là, j'aime Jésus, c'est une image de l'église ce matin, écoutez ça. C'est Jésus qui change l'eau en vin et c'est l'époux qui gagne la gloire. Vous avez vu ça ou pas? Le gars vient voir l'époux, il fait: purée, mais ton vin, il est extraordinaire, l'époux. Merci, tu sais, je l'ai choisi, voilà, Saint-Pierre. Ça, c'est l'image de ce que Christ veut qu'on soit. Qu'on emmène le miraculeux partout où on va et qu'on ne prenne pas la gloire pour nous. En fait, ça veut dire, on s'en fiche, entre guillemets, qui fait quoi? Qui est plus loin, qui est plus grand, qui est plus fort, qui est la plus grande église? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est des choses totalement puériles. La vraie question, c'est: est-ce que mon cœur change? Est-ce que ma vie rend gloire à Dieu? Est-ce que mon influence s'étend davantage pour être l'évidence de l'existence du Dieu que je proclame? Est-ce que ma vie d'église est vibrante? Est-ce que les jeunes ont envie de venir à l'église? Est-ce que les jeunes ont envie de venir à l'église? Est-ce que les moins jeunes veulent venir à l'église? J'ai parlé à un couple cette semaine et à un homme qui est très très connu dans le monde de l'art. Très connu à La Réunion. L'art. L-A-R-T. Très connu. Et il a dit, lui, ce qu'il a touché ici à l'église, c'est de voir que la plupart des jeunes, c'est eux qui amènent leurs parents à l'église. Est-ce que vous savez que nos jeunes arrivent avant les parents? Il y a beaucoup de jeunes ici, de 13 à 20 ans, qui arrivent longtemps avant les parents. J'arrive à 6h du matin, en train de prier. Trouvez-moi des jeunes comme ça aujourd'hui. C'est avec eux qu'on va secouer La Réunion. Nous, les parents, on va les bénir, les protéger, on va les aider. Mais s'il vous plaît, plus jamais de ce style. Nous, on est sages, mais toi, tu es foufou. Non. L'église, regardez-moi bien en face. Hein. Si vous venez à extravagance, vous ne pourrez pas apprécier une vie religieuse. Non. Il y a plein d'autres mouvements ailleurs. Gloire à Dieu. Et chacun sa... Je ne dis pas qu'on est meilleur, on est différent. Chacun a son appel. Mais nous ici, on a choisi d'être extravagant. C'est pour cela qu'on a des groupes extravagances. On a le pasteur. Écoutez, quand un des pasteurs, le lundi soir, il va taper sur ses copains, on est extravagant. Le pasteur Steph fait du quoi? Du Jeet Kune Do? Jeet Kune Do avec un groupe de 15-20 jeunes. Je suis allé une fois au cours. J'ai fait pas pour moi. Non. Les gars sont là, avec le prof est là aujourd'hui. Les gars sont là. Vas-y. Comme ça, j'ai fait. Laisse tomber, quoi. Et les gars sont dans leur trip, hein. Ils sont contents. Et là, tu me dis, tu vois, mais au lieu que ces jeunes-là sont dans la drogue, l'alcool, ils font du sport avec des chrétiens. Tout le monde dit extravagance. Alors, vous savez quoi? La religion lie et restreint, mais Dieu libère les captifs. Dieu libère les prisonniers. Dieu veut les voir se réjouir. La religion aime le silence et le murmure. Et j'aime parfois être dans le silence. Quand je parle du silence, c'est quand je n'ai rien à dire. La religion n'a plus rien à dire aujourd'hui. L'église doit être la voix de Dieu. Quand je parle de l'église, je parle avec un grand E, d'accord? Le Saint-Esprit vient pour donner la vie, la vie en abondance. Et verset 11 nous a dit tout à l'heure, je finis là-dessus, verset 11 nous dit, c'est là le premier miracle, le premier signe que Jésus a fait. Et il manifesta sa gloire. J'aime ça. Et ses disciples comptent en lui. Dans Éphésiens 3, 20, la parole de Dieu dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous devons demander ou penser. Dieu peut agir au-delà, infiniment plus grand, plus large, plus énorme que tout ce que tu peux demander ou penser. Est-ce que ce matin, tu es convaincu que tu ne sers pas un Dieu religieux, mais un Dieu extravagant? Alors, j'ai posté ce message sur le mur Facebook. Pourquoi? Si vous avez besoin de quelques éléments, prenez-le, imprimez-les. Et si les gens vous demandent pourquoi, c'est très simple. Mais tu sais, mon ami, le mot que nous avons choisi est défini par la culture de notre Église. Ce que Dieu veut faire au travers de nous, c'est de faire descendre le royaume de Dieu sur La Réunion. Quand Jésus a manifesté sa puissance et qu'il a chassé les démons, les gens se sont dit, il est animé par Belzébuth. Ils lui ont dit, c'est par les démons que je chasse les démons. c'est clair que les gens ne vont pas comprendre quand quelque chose de nouveau se fait, mais le futur est dans la nouveauté. Le futur est dans la nouveauté. The future is in the new. C'est la parole puissante de cette année, mes amis. Le futur est dans la nouveauté. On ne peut pas espérer avoir de nouveaux résultats en faisant les choses qu'on a toujours faites. À un certain moment, il faut savoir évoluer.